Géopolitique,
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Notre invité aujourd'hui a eu plusieurs vies. Il a travaillé dans l'humanitaire en Afghanistan, il a été diplomate, notamment en Syrie, avant de devenir professeur des universités à Sciences Po Paris, où il transmet à ses étudiants sa passion pour le Moyen-Orient. Bonjour Jean-Pierre Filieu.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir pour parler de ce livre Somme que vous publiez aux éditions du Seuil, Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours. Un livre riche, érudit, agrémenté d'une vingtaine de cartes et de 10 chronologies, essentielles pour comprendre les méandres de ce Moyen-Orient aussi attirant que complexe, berceau des trois religions monothéistes et terre de tant de conflits, de guerres, de conquêtes, d'alliances, mais aussi de trahisons. Aujourd'hui, le Moyen-Orient est-il toujours un enjeu géopolitique majeur, une région stratégique pour les grandes puissances, ou est-il en train d'être supplanté par l'Asie où la puissance croissante de la Chine fascine autant qu'elle inquiète? Comment les printemps arabes, les contre-révolutions qui ont suivi et la guerre contre le djihadisme ont-ils redistribué les cartes? À qui profite la fin de l'hégémonie américaine dans la région? Autant de questions que j'ai envie de vous poser, Jean-Pierre Filieu, mais d'abord, un mot sur ce titre, le milieu des mondes, c'est un constat géographique ou un concept géopolitique?
Bien les deux. Il se trouve que ce concept géopolitique, ça n'est pas un hasard s'il est né assez récemment, au début du XXe siècle, aux États-Unis. Parce que quand on est de l'autre côté du globe, effectivement, quand on regarde l'ensemble tricontinental, Europe, Afrique, Asie, ben on voit au milieu ce Middle East, donc cet Orient du milieu, hein, qu'on traduit par Moyen-Orient, alors qu'il n'est pas ni petit ni grand, il est au milieu. D'où le titre que j'ai choisi, en effet, le milieu des mondes, parce que c'est cette fonction de carrefour hein, entre les trois continents qui a fait de cette région à la fois le berceau des civilisations, comme vous l'avez rappelé, le berceau des trois religions monothéistes, et aussi un enjeu permanent entre les différents empires qui voulaient justement partir d'un des continents pour en conquérir l'autre.
Et vous rappelez qu'en 1902, quand l'amiral américain Albert Mahan invente ou prononce en tout cas ce nom de Middle East, il explique que le contrôle du Moyen-Orient serait la clé de l'hégémonie mondiale.
Oui, c'est une vision tout à fait stratégique. Hein.
Visionnaire, c'est un visionnaire en fait.
Ah, c'est un visionnaire parce que on réduit trop souvent l'intérêt des États-Unis pour le Moyen-Orient, soit à la question des hydrocarbures, soit à la relation très spéciale avec Israël. Or, Mahan énonce cette idée du Moyen-Orient comme source de la puissance mondiale un demi-siècle avant ces deux phénomènes. Et effectivement, en visionnaire, il comprend que dans ce milieu des mondes, une puissance qui veut devenir mondiale doit s'affirmer contre ses concurrents, mais aussi de manière générale. Et j'enseigne à mes étudiantes, à mes étudiants, l'idée, le concept, la thèse du Moyen-Orient comme gisement de puissance, indépendamment des intérêts objectifs qui s'y affrontent.
Alors pourquoi avez-vous choisi de partir de 395 pour retracer cette histoire du Moyen-Orient ?
Alors d'abord, c'était pour éviter le piège des deux zéros. Le zéro du calendrier chrétien ou le zéro du calendrier islamique, 622, l'égire du prophète Mohammed. Parce que avec la meilleure volonté du monde, quand on part de ces dates fondatrices d'un monothéisme, on est amené à suivre un déroulé qui colle un peu trop au récit sacré, quel que soit l'esprit critique qu'on déploie. Et puis 395, c'est une date relativement méconnue, alors qu'elle est fondamentale. C'est la rupture négociée, hein, c'est la division entre l'Empire romain d'Occident, hein, donc à Rome puis Ravenne, et l'Empire romain d'Orient à Constantinople. Et ça n'est pas une décision ou une division religieuse, vu que ces deux empires ont la chrétienté en partage. Et donc cette décision politique va créer le Moyen-Orient comme entité politique, où d'ailleurs l'Empire romain d'Orient va avoir face à lui une Perse sassanide avec un autre monothéisme d'État, le zoroastrisme, et ces deux empires à religion d'État vont cohabiter pendant près de deux siècles, ce qui invalide le mythe des conflits inexpiables pour des raisons religieuses au Moyen-Orient.
Alors pourquoi une histoire laïque, et ça va faire écho à ce que vous venez de dire de toute façon, parce que l'adjectif, a priori, peut paraître un peu surprenant, puisqu'on associe très très souvent donc, le Moyen-Orient à l'interférence du religieux dans les conflits.
Oui, alors j'essaie toujours, respectueusement, mais avec une certaine méthode, de faire un pas de côté, d'être là où on ne m'attend pas forcément. Effectivement, brandir l'étendard de la laïcité au Moyen-Orient, ça peut paraître contre-intuitif. Mais c'est à la fois par rapport au grand récit religieux que je veux appliquer cette méthode d'observation, mais aussi à d'autres récits sacrés qui ne sont pas tous religieux au Moyen-Orient, loin de là. Je pense au grand récit sur la Perse éternelle, sur la nation arabe, sur la colonisation, sur la décolonisation. À chaque fois, je m'efforce, et c'est d'ailleurs ce qu'un historien digne de ce nom doit faire avec constance, de désacraliser pour montrer les processus politiques, les dynamiques stratégiques, là où trop souvent on projette les grands récits sacrés des uns ou des autres.
Vous voulez dire qu'au Moyen-Orient, peut-être plus qu'ailleurs, le religieux est une sorte de paravent pour masquer les desseins politiques ?
Peut-être plus qu'ailleurs. Moi, ma spécialité, c'est le Moyen-Orient, donc je ne serais pas vraiment bien placé pour comparer avec d'autres régions du monde. C'est mon intuition. Mais en tout cas, il faut, comme historien, s'attacher aux faits, aux personnes, aux enchaînements d'événements. Et une fois qu'on les déroule, qu'on décortique un peu la chronologie, on se rend compte que la téléologie religieuse, eh bien, elle n'a pas grand sens en termes d'explication.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple de grand récit religieux fondé sur un mythe ?
Je parlerai de Jérusalem du point de vue de l'islam. Alors on sait que au tout début, le prophète Mohammed avait indiqué que c'était la direction de Jérusalem qui serait celle de la prière, de la Qibla pour les musulmans, et qu'en 624, il va finalement choisir de se tourner vers la Mecque. Mais en fait, par rapport à la Mecque et Médine, Jérusalem a une importance relativement mineure, au point que quand les croisés la prennent en 1099, il n'y a pratiquement aucune réaction dans le monde musulman. Et il faut près d'un siècle de contre-croisades musulmanes pour créer le mythe extrêmement mobilisateur de Jérusalem comme Al-Quds, c'est-à-dire le sacré, et donc avec une reconquête de Jérusalem par les musulmans en 1187. Et donc on voit que ce troisième lieu saint de l'islam, en fait, n'atteint le statut qu'il a aujourd'hui et qui est incontestable qu'au plusieurs siècles après la fondation de cette religion.
Est-ce que l'exemple type d'appropriation du passé pour la construction d'un récit, c'est le califat institué par le groupe État islamique en Irak et en Syrie ?
Ah oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on a vu comment on pouvait tomber dans le piège des criminels, des gangsters, parce que c'est ça, cette bande de Daesh, le bien mal nommé État islamique. Et que n'a-t-on pas écrit après la proclamation du califat de la terreur par Abou Bakr el-Baghdadi en 2014 sur les musulmans qui seraient orphelins du califat, qui auraient une pulsion irrépressible de renouer avec cette institution. La réalité, c'est que le califat, comme institution de pouvoir pleine et entière, n'existe vraiment que pendant les trois premiers siècles de l'islam, et que comme institution de référence, mais avec encore un ancrage territorial, elle disparaît dès 1258 avec la chute de Bagdad et la destruction de cette capitale du califat abbasside par les Mongols. Après, en fait, on a une série de califats en trompe-l'œil, si j'ose dire, de califats en chocolat, que des sultans, qui eux ont le vrai pouvoir, ont la sulta, le pouvoir exécutif, l'autorité en arabe, soit au Caire avec les Mamelouks, soit ensuite à Constantinople avec les Ottomans, ce sont eux, ce sont les sultans qui détiennent le pouvoir. Le califat, lui, n'a plus qu'une fonction d'apparat. Et quand, en 1914, le calife ottoman proclame le djihad contre les Français, les Anglais, les Russes, parce que l'Empire ottoman s'est allié secrètement avec les Allemands, eh bien, ça n'a absolument aucun effet, parce que les musulmans n'écoutent pas l'appel d'un calife aussi discrédité. Voilà, c'est ces choses-là que j'aurais voulu entendre en 2014, et malheureusement, on a versé de l'eau au moulin de la propagande djihadiste en prétendant qu'Abou Bakr el-Baghdadi était un calife attendu et relativement légitime, ce qui était complètement mensonger.
Géopolitique, Chantal Leroux.
Alors dans ce livre, vous aimez déconstruire les idées reçues. L'affrontement sunnite-chiite, par exemple, n'a pas toujours existé. C'est
non,
une construction.
C'est une construction, comme toutes les constructions politico-religieuses au Moyen-Orient. Déjà, il faut très longtemps, il faut en fait un, deux, voire trois siècles pour que les catégories sunnites et chiites soient clairement définies avec leurs dogmes respectifs. Trop souvent, on projette sur l'islam les catégories de l'Église avec les schismes, donc avec les dissidences pour des conflits de doctrine. Dans l'islam, c'est beaucoup plus progressif. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'une fois le sunnisme et le chiisme constitués, il y a beaucoup plus de périodes où les sunnites combattent atrocement des sunnites et où des chiites se jettent et massacrent d'autres chiites que des affrontements entre sunnites et chiites. Et on a même une situation qui va durer près d'un siècle où à Bagdad, un calife sunnite va être placé sous la protection d'émirs chiites qui vont être d'une neutralité ostensible à l'égard du dogme et permettre que la majorité de la population de l'Irak d'alors continue à pratiquer le sunnisme.
Et vous rappelez que, contrairement là encore à certaines idées reçues, l'islam ne se réduit pas à ce bloc sunnite-chiite.
Ah non, non, non. Il y a déjà une diversité dans chacune de ces familles, à la fois sunnites et chiites. Et puis il y a d'autres formes d'islam qui ont chacune leur légitimité, même si elles sont aujourd'hui très minoritaires. Les ismaéliens qui ont donné à l'islam à la fois la ville du Caire et l'université d'El-Azhar, qu'on présente aujourd'hui comme le bastion de l'orthodoxie sunnite, alors que ce sont ces dissidents de l'islam qui l'ont fondé, les alaouites, bien sûr, les druzes. Donc il faut prendre en compte cette diversité et sortir de la bipolarité qu'on nous présente comme inévitable aujourd'hui.
Alors à propos des alaouites justement, minorité qui a mis la Syrie en coupe réglée alors que le pays est en majorité sunnite, d'abord avec Hafez el-Assad, maintenant avec son fils Bachar el-Assad, est-ce qu'ils se sont inventés eux aussi un récit qui puisse les légitimer?
Ah oui, bien sûr, hein, comme toutes les familles religieuses de la zone. Mais ce récit, il faut admettre qu'on n'en connaît qu'une partie, parce que pour les alaouites, comme pour les druzes, on est face à une secte initiatique. Et il faut comprendre que la majorité des alaouites ne savent pas à quoi ils croient, vu que c'est uniquement une caste de sages qui détient le message secret. Alors, simplement, permettez-moi juste de nuancer votre affirmation. La minorité alaouite est autant opprimée que le reste de la population syrienne. Il se trouve que les Assad sont une famille alaouite. Mais, si j'ose dire, les alaouites aujourd'hui en Syrie, ils sont doublement otages. Ils sont otages du régime qui se sert d'eux comme d'une masse, voire d'une chair à canon, dans la guerre civile qu'il a déclenchée contre son propre peuple. Évidemment, ils sont otages de la confessionnalisation de cette guerre que la dictature syrienne a systématiquement entretenue.
Vous voulez dire que la communauté alaouite en Syrie n'a jamais bénéficié du fait que qu'un alaouite était à la tête du pays, Hafez al-Assad et aujourd'hui Bachar al-Assad ?
Dans sa majorité, non. Les mécanismes mafieux de captation du pouvoir et des richesses par le clan Assad ont toujours exclu la majorité de la population alaouite. Et durant les 10 années écoulées, elle a payé un tribut terrible à la folie guerrière du clan Assad. Et c'est peut-être en proportion, hein, je parle des combattants, hein, pas des civils, la communauté qui a payé le prix le plus lourd.
Vous racontez dans votre livre que Saladin était kurde, un kurde arabisé. Comment est-il devenu une figure emblématique du nationalisme arabe ?
Là aussi, hein, c'est une construction, c'est un mythe. Comme il était arabisé, on va oublier qu'il était kurde. Et comme il a, à partir d'une Syrie et d'une Égypte unifiée sous son sultanat, reconquis Jérusalem, eh bien Nasser, Assad le père, hein, Hafez al-Assad, Saddam Hussein, vont successivement se réclamer de lui et effacer ses origines kurdes. Saddam Hussein poussera cette récupération le plus loin possible parce que il était né dans la même ville que Saladin, Tikrit, dans le nord de l'Irak. Mais on voit comment cette récupération d'une figure kurde par le nationalisme arabe est emblématique de la façon dont tous ces grands récits sont en fait pleins de trous que je m'amuse évidemment à souligner.
Alors le Moyen-Orient s'est construit sur 3 pôles correspondant à la Syrie, l'Irak et l'Égypte actuelle. Vous me corrigez si je me trompe. Est-ce qu'aujourd'hui la région, le Moyen-Orient, s'articule toujours autour de ces 3 pôles ou est-ce que les choses sont en train de changer ?
Effectivement, quand on a une Syrie qui est totalement en ruine, quand on a un Irak qui, depuis l'invasion américaine de 2003, n'a cessé sa descente aux enfers, et une Égypte qui s'écroule sous son propre poids, à commencer par sa démographie avec plus de 100 millions d'habitants, on n'a plus des pôles structurants de pouvoir. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour la région. On voit bien que le fait que ces 3 pôles qui ont historiquement structuré le Moyen-Orient soient aussi mal en point, c'est une des raisons pour lesquelles le Moyen-Orient est en crise. Et donc, c'est assez récent, hein, ça se passe au cours des dernières décennies, cette destruction, neutralisation de ces 3 pôles qui, effectivement, ouvre la voie aux prédateurs régionaux, qu'ils viennent de la péninsule arabique, de Turquie ou de la République islamique d'Iran.
C'est impossible de résumer 17 siècles en 40 minutes, mais on peut peut-être retenir quelques dates charnières qui ont changé le cours de l'histoire du Moyen-Orient. Est-ce que 1798, année de l'expédition française en Égypte, fait partie de ces dates charnières pour vous ?
Ah, tout à fait, hein. D'ailleurs, j'en fais une tête de chapitre, hein, parce que cette expédition de Bonaparte en Égypte, d'abord, c'est la première et dernière fois que la Révolution française va tenter militairement d'exporter son message hors d'Europe. Et elle le fait très significativement au Moyen-Orient, avec une fascination pour l'Égypte, dont la France sera bien payée en retour, y compris avec l'obélisque qui, depuis 1836, cadeau du gouverneur d'Égypte, trône au milieu de notre place de la Concorde à Paris. Mais c'est aussi la première des interventions de type impérial, impérialiste au Moyen-Orient, et pendant tout le 19e siècle, elles vont façonner cette région, mais pour ne pas être trop pris par la chronologie, la dynamique de ces interventions impérialistes, je leur consacre un chapitre spécifique. Et je consacre un autre chapitre sur la même période du 19e siècle aux évolutions internes à la région pour justement ne pas donner l'impression que c'était un calendrier européen qui dictait en permanence les mutations du Moyen-Orient alors que les volontés de réforme, de renaissance, voire de révolution étaient très importantes dans la région, dans les sociétés, dans les peuples, mais aussi dans les élites.
Jean-Pierre Filliu, on va faire une pause, le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes.
Témoin d'actu. Le
Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Le Moyen-Orient, 20 ans après le 11 septembre, à qui profite le désengagement américain? On va en parler avec Jean-Pierre Filliou qui signe un livre qui va faire référence, Le Milieu des Mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours, édité au Seuil. Est-ce qu'on peut dire que la France est quelque part un peu responsable du chaos libanais actuel, au sens où c'est elle qui est à l'origine, au XIXe siècle, de ce fameux système confessionnel, de cette répartition des postes en fonction d'une appartenance communautaire, système qui a conduit à l'impasse que connaît le Liban?
Oui, je pense pas que les historiens aient décerné des brevets de responsabilité ou de non-responsabilité, mais il est certain que les conditions dans lesquelles le Grand Liban a été proclamé par la France en 1920 affectent jusqu'à aujourd'hui la vie des Libanaises et des Libanais, parce que la France avait déjà depuis des décennies imposé une confessionnalisation très rigide, beaucoup plus rigide que sous l'Empire ottoman pour ce qui s'appelait le Mont Liban, c'est-à-dire les montagnes qui surplombent directement Beyrouth. Et donc non seulement elle va maintenir ce système dans le Grand Liban, mais elle va amalgamer au Mont Liban et à Beyrouth dans le Grand Liban des territoires à majorité musulmane, ce qui voulait dire qu'inévitablement les chrétiens pour lesquels ce Grand Liban a pourtant été créé par la France qui prétendait les protéger allaient devenir minoritaires. Alors évidemment, en 1920, ça paraissait très loin, mais ça s'est passé à peu près au moment où éclate ce qu'on appelle la guerre civile au Liban en 1975. Donc on a tout cet enchaînement, cette confessionnalisation, cette communautarisation dont on voit aujourd'hui à quel point elle pèse et je dirais même qu'elle obscurcit l'horizon de tous les Libanais.
Comment convaincre les dirigeants libanais qui se serrent les coudes, toute communauté confondue, de renoncer à ce système confessionnel? Emmanuel Macron l'a tenté en vain lors de ses deux visites à Beyrouth après l'explosion du 4 août, donc l'explosion de 2020. C'est mission impossible aujourd'hui?
Aujourd'hui, effectivement, la situation est très dégradée et on a eu récemment des images d'affrontements miliciens qui ont rappelé les pires moments de la guerre civile, même si le pire n'est pas toujours sûr. En fait, quand Emmanuel Macron se rend à Beyrouth le 6 août 2020 et où il est acclamé par la foule dans la zone de la catastrophe où les dirigeants libanais eux-mêmes n'osent pas se rendre justement par peur de leurs propres concitoyens, il y a un moment tout à fait unique et une occasion qui aurait dû être saisie. Et moi, je vois en fait les choses se retourner très vite. La France, à ce moment-là, exigeait une enquête internationale sur l'explosion du port de Beyrouth. Les dirigeants libanais, président Aoun en tête, vont la refuser pour qu'on ne vienne pas jeter une lumière malvenue sur leur petit et sale secret, et la France va accepter que cette enquête internationale n'ait pas lieu. À mon avis, c'est ce premier refus accepté par la France qui sanctionne l'échec de l'approche volontariste qui avait pourtant été esquissée par Emmanuel Macron le 6 août 2020.
Jean-Pierre Filliou, on fait un grand saut en arrière. 11 septembre 2001, cataclysme aux États-Unis avec les attentats spectaculaires et meurtriers signés Al-Qaïda. Des attentats sur le sol américain, mais qui vont faire basculer le Moyen-Orient.
Oui, mais il faut savoir que tout cela s'insère dans ce que j'appelle dans mon dernier chapitre « Vie et mort du Moyen-Orient américain ». Et je commence en 1990 et je m'arrête à nos jours. Et en fait, 2001, effectivement, est un moment charnière, un moment clé. Mais il est plutôt celui où Bush Junior va dilapider l'héritage de Bush Senior, qui avait créé un nouveau Moyen-Orient à sa main pour consolider l'hégémonie américaine dans le monde entier Et Bush Junior, en lançant la guerre globale contre la terreur, hein, c'est ainsi qu'il l'a appelé, a en fait globalisé la terreur contre laquelle il déclarait la guerre et a ainsi fait que le Moyen-Orient, au lieu d'être l'assise de l'hégémonie mondiale, va être la zone, le bourbier, le marécage où cette hégémonie va être mise en échec, d'abord en Irak, puis en Afghanistan.
En 2003, les États-Unis vont justifier leur intervention militaire en Irak, justement, par un mensonge. Saddam Hussein posséderait des armes de destruction massive. Le 14 février, au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, se prononce contre cette guerre en Irak, un discours entré dans l'histoire.
Dans ce contexte, l'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs.
Jean-Pierre Filliou, il avait raison, Dominique de Villepin, tout ce qu'il redoutait s'est réalisé. L'intervention américaine en Irak a été un désastre absolu.
Y compris pour les États-Unis. Donc c'est malheureusement la preuve, et l'historien en croise trop souvent, que la lucidité dans l'analyse, eh bien, elle n'a pas toujours prise sur les décisions les plus malheureuses de l'histoire, car cet avertissement n'a pas été entendu par les États-Unis, qui étaient convaincus que leur invasion de l'Irak avait une vertu propre et qu'elle suffirait mécaniquement à y faire éclore la démocratie, alors que c'est en fait le règne des milices et la vague de terreur que cette invasion a suscité en implantant le djihadisme qui était jusque-là marginalisé aux confins de l'Afghanistan, donc en implantant cette terreur djihadiste au cœur du Moyen-Orient.
Et vous soulignez que George Bush a involontairement, sans doute, fait cadeau de l'Irak à son rival iranien.
Oui, tout à fait. Alors ça, il a fallu longtemps pour qu'on s'en rende compte. À titre personnel, ça faisait de longues années aussi que je mettais en garde. On est arrivé à une situation où progressivement, vu les risques, vu les pertes, les Américains ont été de moins en moins présents au sol, tout en dominant l'espace aérien irakien. Et donc, ils ont involontairement, mais c'est aujourd'hui effectif et très clair, fourni une couverture aérienne à l'infiltration généralisée, méthodique, de l'Irak par son puissant voisin iranien. Et donc, ce que la République islamique d'Iran avait été incapable de faire durant les 8 années du conflit atroce qui l'ont opposé à l'Irak de 1980 à 1988, l'Irak ayant pris l'initiative des hostilités, eh bien les États-Unis l'ont offert sur un plateau à Khamenei, donc le successeur de Khomeini. Et j'étais en 2019 à Mossoul pour une intervention en arabe d'inauguration du centre culturel franco-arabe dans l'université de Mossoul, et quelle n'a pas été ma surprise de voir des barrages dans Mossoul, ville historiquement arabe et sunnite, des barrages aux couleurs de la République islamique d'Iran. Et je crois que les combattants pro-iraniens pouvaient dire « merci l'Amérique ».
Autre date marquante, le 4 juin 2009, le nouveau président américain Barack Obama se rend en Égypte et il prononce à l'université du Caire un discours de réconciliation entre l'Amérique et les musulmans. Titre du discours « A new beginning », un nouveau départ.
Je suis venu ici au Caire pour chercher un nouveau départ entre les États-Unis et les musulmans à travers le monde. Un départ fondé sur l'intérêt mutuel et le respect mutuel. Un départ fondé sur cette vérité que l'Amérique et l'islam ne s'excluent pas et ne doivent pas être en rivalité. Au contraire, ils se conjuguent et partagent des principes communs, des principes de justice et de progrès, de tolérance et de dignité de tous les êtres humains.
Jean-Pierre Filiu, vous avez cru à l'avènement d'un Moyen-Orient apaisé en écoutant le beau discours de Barack Obama?
Discours magnifique, bien sûr j'y ai cru, mais ce qui est surtout important, c'est qu'au Moyen-Orient, des millions de femmes et d'hommes y ont cru. Il faut savoir que Obama est interrompu à plusieurs reprises au cours de son discours par des étudiants qui lui crient « We love you, we love America ». Donc ce qui prouve qu'il n'y a aucune fatalité à cette haine, à cette hostilité envers l'Amérique, qu'elle est le fruit des politiques menées par les États-Unis et non une espèce d'agressivité existentielle comme on nous le présente trop souvent. Mais Barack Obama ne va pas être à la hauteur de son propre discours.
Effectivement, dans son discours, par exemple, Obama jugeait le sort des Palestiniens intolérable et trouvait légitime leur aspiration à un État. 3 ans plus tard, en 2012, il oppose son veto à l'admission de la Palestine à l'ONU. Elle n'y obtient que le statut très modeste d'observateur. Pourquoi ce revirement, selon vous ?
Ce revirement, il est lié exclusivement à des considérations de politique intérieure américaine. C'est comme on sait, dans le cycle américain, les midterms qui amènent une majorité opposée aux locataires de la Maison-Blanche. Et au sein de cette majorité républicaine, les sionistes chrétiens, c'est-à-dire les évangéliques essentiellement du sud des États-Unis, mais pas exclusivement, sont farouchement opposés à toute pression exercée sur Israël, parce qu'ils considèrent dans leur propre vision prophétique que le retour, avec tous les guillemets qu'on veut, du peuple juif sur sa terre en Israël participe justement de l'accomplissement des prophéties. Donc ce sont pour ces considérations, et j'insiste, ce n'est pas la communauté juive qui a pesé, la communauté juive soutenait Obama dans l'approche négociée qu'au début de son premier mandat il voulait promouvoir, mais ce sont ces sionistes chrétiens, donc des protestants évangéliques, majoritairement engagés au Parti républicain, qui lui ont bloqué la voie par leurs représentants au Congrès.
La solution à deux États, un État palestinien aux côtés d'un État israélien, elle est morte et enterrée aujourd'hui ?
Non, parce que comme je le dis avec constance en paraphrasant Churchill, de même que la démocratie est le pire système du monde à l'exclusion de tous les autres, c'est le cas de la solution des deux États au Moyen-Orient. Toutes les alternatives à cette solution sont infiniment pires et alimenteront encore plus de conflits. Donc, quelles que soient les difficultés qu'elle aurait à être mise en œuvre, elle constitue le seul horizon d'une réconciliation historique entre Israéliens et Palestiniens.
J'évoquais tout à l'heure les dates charnières dans cette histoire du Moyen-Orient. Est-ce que le mois d'août 2013 en est une quand Obama renonce à des frappes conjointes avec la France contre la Syrie, alors qu'il avait affirmé que l'utilisation par Bachar el-Assad d'armes chimiques contre son propre peuple serait une ligne rouge ?
Ah oui, c'est un tournant majeur. Et là encore, ce tournant au Moyen-Orient affectera l'ensemble du monde. Il est évident que Poutine n'aurait jamais osé annexer la Crimée l'année suivante s'il n'avait pas vu que les menaces américaines n'étaient pas suivies d'effet. Donc, la configuration, cet ensauvagement du monde que nous voyons aujourd'hui, il est né aussi parce que l'homme le plus puissant du monde, un jour de l'été 2013, non seulement n'a pas tenu sa parole, mais a laissé un crime contre l'humanité caractérisé, l'utilisation d'armes chimiques contre des milliers de civils, ce crime restait impuni. Et François Hollande, au nom de la France, a considéré qu'effectivement, non seulement Obama avait manqué à sa parole, mais que du coup, il avait porté un coup terrible au droit international et à cette mise en œuvre. C'est d'ailleurs de cet été 2013 que date l'envolée des montées au djihad pour Daesh et donc la naissance du monstre terroriste que fut le soi-disant État islamique pendant les années suivantes.
Comment la Syrie peut-elle se relever aujourd'hui avec un Bachar el-Assad inamovible et paradoxalement de moins en moins mis au ban de la communauté internationale ?
Vous savez, je connais bien les Assad, j'ai pratiqué le père quand j'étais diplomate en Syrie, j'y ai connu Bachar el-Assad, que j'ai rencontré par la suite. Ce sont des monstres à sang-froid, mais qui n'ont pas une mécanique très sophistiquée. Donc ils ne font rien, ils ne bougent pas, ils attendent que le monde bouge autour d'eux. Donc ce qu'il faut, c'est surtout ne pas croire que leur parler apporterait quoi que ce soit. Ils ne donneront rien en échange, voire ils exigeront des excuses de ceux qui ont osé imaginer un futur pour la Syrie sans les Assad. Or, c'est ainsi, hein, on peut tourner ça dans tous les sens. Tant que les Assad sont là, il n'y a pas de futur pour la Syrie, parce que les 7 millions de réfugiés, hein, soit plus d'un tiers de la population syrienne qui sont à l'étranger, ne rentreront jamais au pays tant que Assad sera au pouvoir. Or, c'est eux seuls qui peuvent reconstruire, développer et ramener le pays à une ère de paix, je n'ose dire, de prospérité.
Le temps passe très vite, Jean-Pierre Filliu. Dernière question, ou presque, à qui profite le désengagement des États-Unis de cette région du Moyen-Orient ? La Russie, la Chine en embuscade, le Qatar et son soft power ?
Alors, il n'y a pas de phénomène de vase communicant hein, au Moyen-Orient, comme d'ailleurs nulle part ailleurs. C'est pas parce qu'une puissance se retire qu'une autre va, d'une certaine façon, mécaniquement occuper la place ainsi laissée vide. La Russie est un empire du pauvre. Elle a mené une guerre au moindre coût en Syrie, avec des frappes tout à fait aveugles, expulsion de population, et elle s'avère incapable de construire la paix en Syrie parce qu'elle s'avère incapable d'obtenir la moindre concession du régime Assad. Quant à la Chine, elle a une politique d'investissement tous azimuts avec des régimes que tout oppose. Je pense par exemple à l'Iran d'une part, à l'Arabie Saoudite et aux Émirats d'autre part. Et elle ne tente même pas une médiation entre ses partenaires qui sont pourtant en hostilité ouverte. Donc ça veut dire que au-delà de l'économique, elle n'a pas les autres instruments de la puissance. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a les prédateurs régionaux qui s'agitent, donc la Turquie d'Erdogan, c'est très clair, la République islamique d'Iran, qui pour l'heure est le plus à l'initiative, aussi bien en Irak, on l'évoquait, mais aussi en Syrie, au Liban, au Yémen. On a les Émirats arabes unis, qui sont extrêmement agressifs, hein, au Yémen, mais ailleurs dans la région, où ils promeuvent une contre-révolution organisée, et le Qatar qui sort, si j'ose dire, la tête haute de 4 années de blocus infructueux par ses voisins du Conseil de coopération du Golfe et qui effectivement met en avant son potentiel de médiation, car le pari qu'il avait fait sur les islamistes en général a largement échoué.
Est-ce que la France a une carte à jouer ?
La France a une carte très importante à jouer, surtout dans le cadre de la présidence de l'Union européenne qu'elle va exercer à partir du 1er janvier. C'est pourquoi mon livre se conclut par tout un développement sur la France moyenne-orientale, où je crois que notre tradition, notre expertise, notre familiarité, mais aussi le fait que nous avons toute la palette de la puissance. Hein. C'est pas uniquement le militaire à l'américaine comme ces dernières années, mais aussi tous les moyens diplomatiques, culturels, financiers, sociaux, médiatiques. Mais cela ne peut se développer pour durer que dans un cadre européen. Et je crois beaucoup qu'aujourd'hui, la puissance que tout le monde attend au Moyen-Orient, c'est l'Europe. Et je crois encore plus profondément que l'Europe n'existera pas en tant que puissance tant qu'elle n'existera pas au Moyen-Orient. Donc, est-ce que l'Europe osera exister à la mesure de ses moyens et s'affirmer dans cette région où une grande partie de sa sécurité et de sa prospérité se joue, hein, on l'a vu en 2015, hein, l'Europe était restée passive et elle l'a payée avec la crise des réfugiés et la vague terroriste. Il faut savoir que si on ne s'occupe pas du Moyen-Orient, le Moyen-Orient s'occupe de vous et généralement dans les pires conditions.
Ce sera la conclusion de cette émission. Merci beaucoup Jean-Pierre Filliu d'avoir été l'invité de Géopolitique. Je renvoie nos auditeurs à votre livre « Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours » publié au Seuil. Merci à Cécile Lavolo et Louise Caledec qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Nathalie Laporte qui l'a réalisée. On se retrouve demain pour débattre des enjeux de la présidentielle au Chili le 21 novembre. Bonne soirée et portez-vous.